France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Il s'agit d'une campagne électorale éclair, 2 semaines seulement, mais le Sénégal renoue avec le rituel démocratique qu'il a longtemps distingué de nombre de ses voisins, quitte à masquer quelque peu la réalité de ses mœurs politiques. Le premier tour de l'élection présidentielle, mettant fin aux 2 mandats consécutifs de Macky Sall, aura lieu le dimanche 24 mars prochain. Les velléités prêtées au président sortant d'envisager un 3e mandat, le report du scrutin qui aurait dû intervenir 1 mois plus tôt, la crise ouverte entre l'Assemblée nationale et avec un conseil constitutionnel accusé de corruption, la crainte de nouvelles violences dans la rue agitées par une jeunesse à vif dont les héros étaient en prison, autant de facteurs qui, depuis plus d'un mois, ont alimenté la confusion. 19 candidats, dont une femme, sont désormais en lice. Le personnage dominant de l'opposition, Ousmane Sonko, leader charismatique du PASTEF, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, emprisonné depuis plusieurs mois, a été libéré jeudi soir, mais il laisse la candidature à son numéro 2, libéré lui aussi, et promet la victoire dès le premier tour. Quelles sont donc les forces en présence? Comment le paysage politique traduit-il les réalités confessionnelles et sociales de ce pays de quelques 20 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 20 ans? Une pauvreté endémique, malgré une croissance prévue à 8% cette année, des travaux d'infrastructures, les promesses du gaz et du pétrole, quel bilan au terme des 12 ans au pouvoir de l'équipe sortante? Sujet de ces derniers temps au coup d'État militaire, contaminé par un djihadisme conquérant, l'Afrique subsaharienne est le terrain d'une compétition stratégique accrue où la France perd des points face à la Russie, à la Chine, mais aussi face à la Turquie et aux Émirats. Les jeunes Sénégalais émigrent en masse au péril de leur vie. Beaucoup rêvent de venir chez nous, mais au Sénégal aussi, le sentiment anti-français grandit. Pourquoi? C'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à Nathalie Delapalme, la directrice exécutive de la Fondation Mo Ibrahim, co-secrétaire générale de la Fondation Afrique-Europe. Niagale Bagayoko, qui préside le centre de recherche qui s'appelle le Réseau africain pour la sécurité. Merci d'être avec nous. Depuis Dakar, Gilles Yabi, ravi de vous être à nouveau, fondateur et directeur de Wati, un think tank, je vous cite Gilles, citoyen participatif et multidisciplinaire sur les dynamiques ouest-africaines. De Dakar aussi, Ndongo Samba Silla, vous êtes économiste chargé de programmes et de recherche au Bureau Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg. Et enfin, Jean-François Bayard, vous êtes, Jean-François, professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Gilles Yabi à Dakar ce matin, il est 1 heure plus tôt que chez nous. Quel est le climat politique après toute cette semaine de confusion et l'amnistie déclarée par le président Macky Sall, qui a conduit donc à la libération de nombreux prisonniers politiques?
Oui, bonjour Christine et bonjour à toutes et à tous. Je crois que vous l'avez dit en introduction, c'est une élection qui aura lieu la semaine prochaine, le 24 mars, mais après, il y a beaucoup de rebondissements. Donc, c'est un véritable feuilleton avec plusieurs épisodes. Je crois que cette fois-ci, il devrait plus y avoir, en tout cas, de nouvelles surprises jusqu'à l'élection le dimanche prochain. Et c'est vrai que ça va être peut-être une seule vraie semaine de campagne avec tous les candidats en liberté, puisque Ousmane Sonko, qui n'est pas candidat, qui n'est pas sur la liste des 19 candidats, mais Sur Audio MyFi qui le remplace d'une certaine manière sur cette liste des candidats, a été aussi donc libéré, et je crois qu'il y a une conférence de presse déjà après cette double libération d'acteurs politiques importants au Sénégal, et cette conférence de presse hier a donné le ton, je pense, de cette semaine de campagne, c'est-à-dire tout de même des attaques assez claires de la part, disons, du candidat Bassirou Diomaye Faye et du camp du PASTEF contre le camp d'Amadou Ba, ancien premier ministre, et qui porte les couleurs de la coalition soutenant le président Macky Sall, et donc qui est considéré comme le candidat du président Macky Sall, même si pour rajouter de la complexité à la complexité, tout le monde dit aussi que les relations entre Amadou Ba et le président Macky Sall ne sont pas aussi excellentes qu'on pourrait le penser.
Mais on voit bien que là, il s'agit d'élections très ouvertes, et je crois que il y a des sondages, mais leur diffusion est interdite au Sénégal.
Tout à fait, Gilles. Leur diffusion est interdite, et donc il est très difficile en réalité de savoir aujourd'hui, en tout cas pour, je dirais, les citoyens ordinaires, les observateurs que nous sommes, de savoir ce que disent ces sondages, qui sont sans doute plutôt à la disposition de certains états-majors politiques qui ont les moyens d'avoir des sondages de qualité. Mais ce qui est quand même assez clair, c'est que oui, c'est une élection qui est très ouverte, et elle est vraiment, je pense, assez unique dans l'histoire du Sénégal. Le président sortant ne se représente pas. On a eu beaucoup d'épisodes, beaucoup de contestations, et un rôle très important du Conseil constitutionnel, qui est en fait celui qui a obligé le président Macky Sall, finalement, à organiser cette élection, en tout cas à faire en sorte qu'elle ne soit pas bloquée. Et je pense que tout cela, évidemment, va avoir aussi de l'influence sur les électeurs. L'amnistie qui a été, au fond, aussi proposée quand même il y a juste quelques semaines par le président Macky Sall, est venu donner l'impression d'un jeu politique qui finalement s'est retourné contre le camp du président, qui se retrouve dans une situation difficile à la toute fin de son deuxième mandat, et qui va, je pense, quitter le pouvoir malgré tout dans des circonstances qui ne sont pas les plus favorables.
Jean-François Bayard, j'espère que nous sommes en ligne avec vous. On a assisté à Dakar jeudi soir, toute la nuit en fait, de jeudi à vendredi, à des scènes de liesse en plein Ramadan, le Sénégal étant un pays largement musulman. Des scènes de liesse donc pour fêter la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. La conférence de presse à laquelle Gilles Yabi faisait allusion hier soir, Sonko qui annonce une victoire dès le premier tour. Qui est donc Ousmane Sonko ?
Alors, je ne me donnerai pas le ridicule de commenter la vie politique sénégalaise, puisque je ne suis pas sénégalais moi-même et que vous avez des interlocuteurs beaucoup plus compétents. Ce que je voudrais souligner, peut-être sous leur contrôle, c'est que Ousmane Sonko représente, comme d'autres figures dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, une espèce de remontée d'huile nationaliste, une affirmation de volonté d'indépendance nationale, notamment, mais pas exclusivement, par rapport à l'ancienne métropole coloniale, en l'occurrence la France. Et Ousmane Sonko représente un petit peu cette sensibilité anti-impérialiste que je vais immédiatement qualifier de révolutionnaire conservatrice, au sens où on l'entendait en Europe entre les deux guerres. Ce qui est frappant, en effet, dans le discours de Sonko, entre autres, c'est une forme de ressentiment, et je prends vraiment le terme au sens de Max Scheler, de Nietzsche, tel qu'il a été utilisé précisément entre les deux guerres en Europe, une forme de ressentiment à l'encontre de la colonisation, à l'encontre de la traite esclavagiste, mais également un ressentiment à l'encontre de tout l'establishment qui, grosso modo, a dominé la vie politique sénégalaise depuis plus d'un siècle. Je crois que le tournant fondamental, c'est au début du XXe siècle, autour de 1905, lorsque vous avez un compromis historique entre, d'une part, l'administration coloniale française et, d'autre part, les confréries islamiques qui, religieusement, dominent à l'époque la Sénégambie. Et ce compromis historique, il s'est reproduit à travers toute la colonisation, y compris pendant le moment très douloureux et très compliqué de la Première Guerre mondiale. Il s'est reproduit sur le mode du nationalisme, notamment sous la houlette du premier président de la République indépendante du Sénégal, Léopold Senghor. Et aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est le tangage, le très très fort tangage de cette formule qui représente donc sur un compromis historique entre les confréries islamiques et la classe politique établie, voire un petit peu raciste. Et bien entendu, la jeunesse est partie prenante de cette remise en cause de l'establishment qui fonctionnait beaucoup à la cooptation et qui aujourd'hui manifestement a de la peine à renouveler cet exercice. Alors Ousmane Sonko, pour le dire d'un mot, il représente l'ébranlement de ce compromis historique, d'une part par son positionnement anti-impérialiste, mais également très conservateur sur le plan des valeurs, en particulier avec la stigmatisation de l'homosexualité. Et l'une des dimensions conservatrices de son positionnement, c'est son ancrage dans l'islam réformé et non pas dans l'islam confrérique. Et ça, je crois que c'est un élément clé de la formule Sonko dans le contexte politique sénégalais actuel, mais qui n'est encore une fois pas sans contrepartie dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger.
Là où on a vu des coups d'État militaires tout au long des deux dernières années. Et comment est-ce que cette révolution conservatrice, pour reprendre votre expression, est perçue ou négociée par les confréries islamiques qui restent néanmoins très puissantes au Sénégal?
Je laisserai mes interlocuteurs répondre sur le fond, car encore une fois, ils sont beaucoup mieux informés que moi. Il ne faut en effet pas sous-estimer l'emprise, en particulier économique, des confréries sur la société sénégalaise, leur emprise également, je veux dire, religieuse, morale et politique, même si les confréries, et ça c'est effectivement une grande inflexion par rapport aux décennies passées, même si les confréries ne sont plus les banques de vote, ne contrôlent plus le vote des Sénégalais, et notamment des jeunes Sénégalais, autant qu'auparavant. Donc il y a certainement, mais vos interlocuteurs seront plus précis que moi sur le... Il y a certainement un affaiblissement ou une relativisation du poids des confréries sur la société sénégalaise, mais qu'il faut nuancer. Je n'en donnerai qu'un exemple, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que ces confréries sont des espèces de forces conservatrices reculées dans la campagne sénégalaise. Elles sont, et cela dès le début du XXe siècle, très présentes dans le tissu urbain, y compris dans le domaine immobilier, mais ce sont des confréries qui sont également largement globalisées. Les mourides, notamment, donc vous avez deux grandes confréries, la Tidjania et la Mouridia pour l'essentiel. Les mourides, dont le fondateur est le cheikh Amadou Bamba, sont extrêmement présents en Amérique du Nord, notamment à New York, dans le contrôle de toute une série de commerces, y compris high-tech, électronique, etc. Ce sont également les mourides que vous voyez sur les principaux marchés, par exemple dans le sud de la France, ou à Venise, qui vendent de la maroquinerie. On dit, à tort ou à raison, je n'en sais rien, que les mourides, ou certains mourides, bien entendu, sont impliqués dans le trafic international de narcotiques, dont Dakar est une plaque tournante. Vous avez, par exemple, un exemple parmi d'autres, une représentation des mourides à Genève, qui est très, très active. Donc les mourides sont très largement globalisés. Ça n'est pas, si vous voulez, d'un côté une espèce de Sénégal profond, obscurantiste, qui serait celui des confréries, et puis d'un autre côté, un Sénégal moderne. En réalité, il y a une imbrication. Mais bien sûr, la globalisation de l'économie sénégalaise, et peut-être d'ailleurs les perspectives pétrolières de ce pays, amène à une reconfiguration de la place des confréries dans le tissu politique. En tout cas, c'est l'hypothèse dont je partirai, mais là, mes amis sénégalais seront plus précis que je ne pourrais l'être.
Et précisément, retournons à Dakar. Merci d'être avec nous, Ndongo Sembe. Si là, vous êtes économiste, expliquez-nous précisément comment le parti de Sonko, donc le PASTEF, s'inscrit dans l'évolution de ce Sénégal où, encore une fois, la jeunesse, les jeunes générations semblent lui accorder un crédit illimité.
Merci pour cette question. En fait, le PASTEF, c'est le, en fait, l'acronyme, c'est la dénomination de Patriote Africain pour la solidarité, Patriote Africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le PASTEF. Donc, à la base, ça a été créé par des personnes comme Ousmane Sonko, c'est-à-dire des fonctionnaires du Sénégal. Qui ont été dans les...
Fonctionnaires des impôts, hein, je crois que c'est important de souligner.
Les impôts et domaines, oui. Et donc, tout comme son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, qui est le candidat, en fait, pour la coalition autour de Sonko. Et donc, c'est les inspecteurs des impôts et domaines. Et donc, à la base, Sonko lui-même a créé un syndicat pour les fonctionnaires des impôts et domaines. Et donc, leur idéologie, c'est d'avoir une plus de souveraineté pour le pays, pour le Sénégal. Et donc, d'une certaine manière, le PASTEF a eu un impact révolutionnaire au niveau de la politique sénégalaise parce que le PASTEF a réussi à politiser les jeunes, les classes populaires de manière générale et la diaspora. Et donc, le soutien que le PASTEF a traverse toutes les sphères du Sénégal. Et donc, il n'y a pas de problème, d'une certaine manière, entre le PASTEF et les confréries. Il y a des gens qui avaient agité cette hypothèse à un moment donné, mais on a vu qu'elle était fausse.
Et donc, pardon, je vous interromps, Ndongo Sembe, mais pourquoi Sonko ne se représente pas lui-même?
Bon, parce qu'il a été écarté du processus électoral. À un moment donné, il y avait une affaire de viol répété, etc. Et bon, qui n'a pas abouti. Et par la suite, il y a une affaire de diffamation qui a concerné, en fait, Sonko avait accusé un ministre d'avoir mal géré des fonds et le ministre l'a porté plainte pour diffamation. Et donc, c'est cette plainte pour diffamation qui l'a empêché d'être candidat.
Et donc, celui qui est aussi empêché d'être candidat, c'est Karim Wad, donc le fils du prédécesseur de Macky Sall, Abdoulaye Wad. Karim Wad qui est exilé au Qatar et la Cour sénégalaise a décidé qu'il ne pourrait pas se représenter. Mais le Parti démocratique sénégalais, donc son parti, reste quand même un poids lourd de la vie politique locale. Qu'est-ce que l'on peut attendre de cette courte campagne électorale et de mettre en place en fait d'un système comment dire sans fraude dans un laps de temps aussi court?
En fait, il y a une différence de taille entre le cas de Sonko et le cas de Karim Wad, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wad. Karim Wad avait fait sa demande, en fait, a déposé sa candidature auprès du Conseil constitutionnel en disant qu'il avait uniquement la nationalité sénégalaise. Et c'est par la suite, une semaine plus tard, que certains, en tout cas, candidats à la candidature, comme on dit, ont montré que M. Karim Wad avait la double nationalité.
Et donc, c'est française et sénégalaise.
Française et sénégalaise, parce qu'il est binational, sa mère est française. Et donc, c'est sur ce motif que sa candidature a été rejetée. Dans le cas de M. Ousmane Sonko, l'attitude du gouvernement a été que depuis mars 2021, tout devait être fait pour nuire à sa carrière politique et pour qu'il ne se représente pas. Ce qu'il faut dire, c'est que le Sénégal est un adepte de ce que, dans notre livre, avec la journaliste française Fanny Pigeot, nous appelons l'eugénisme électoral. C'est-à-dire sélectionner qui doit être candidat, sélectionner qui peut voter. Et donc, en 2019, les deux ténors de l'opposition, M. Karim Ouad et M. Khalifa Sall, étaient en prison et après, par la suite, à la sortie de prison, ils n'étaient pas éligibles. Et donc, cette année-ci, c'est le cas d'Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'avant, on avait le parti unique, mais maintenant, on est dans des systèmes où tout est fait pour que les candidats qui peuvent potentiellement gêner les régimes en place ou créer les conditions d'une alternance sont systématiquement mis au jeu. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est dans toute l'Afrique francophone, en tout cas en Afrique de l'Ouest, on a vu de telles pratiques au Bénin, en Côte d'Ivoire, etc. Et parfois même en Côte d'Ivoire, on a vu que, bon, en 2020, Alassane Ouattara avait un score de 95% au premier tour. Et donc, dans les régimes dits démocratiques, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour que les candidats qui sont populaires, généralement, ne participent pas aux élections. Et donc ça crée d'une certaine manière, en tout cas, des problèmes au niveau de la jeunesse. Parce que là, on va avoir une élection, mais le candidat le plus populaire, le candidat, en tout cas, qui fait l'unanimité, d'une certaine manière, auprès de la jeunesse et aussi auprès d'une frange significative de la diaspora, ne pourra pas se représenter. Et je ne pense pas que ça avance la démocratie sénégalaise. Mais ce qu'il faut dire également, c'est qu'il n'y a pas de ressentiment. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on pourrait décrire l'attitude du passé. Parce que dans le cas du passé, tout comme d'autres organisations de gauche, etc., qui existent au Sénégal, la question c'est de dire qu'il faut des relations saines, équilibrées, rompre avec la France-Afrique. Et donc,
Ndongo Semba, mais avant d'en arriver là, restons sur cette restauration quand même du processus démocratique au Sénégal. On a quand même craint que tout cela capote assez sérieusement au cours des dernières semaines. Niagale Bagayoko, vous vous intéressez à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne et surtout l'Afrique de l'Ouest. Comment situer ce cas sénégalais par rapport à la situation régionale?
Alors, à mon avis, ce qui se produit actuellement au Sénégal est absolument fondamental pour l'avenir de la sous-région dans son ensemble. D'abord parce que l'on s'aperçoit qu'il existe un État où les contre-pouvoirs sont extrêmement puissants pour s'opposer aux manipulations, aux tentatives de confiscation de l'État, mais aussi d'instrumentalisation de la justice qui ont été rappelées. Le Sénégal a une très vieille tradition démocratique. Il faut le rappeler, même à l'époque encore de la colonisation, il y avait ce qu'on appelait les députés des quatre communes, Dakar, Rufisque, Saint-Louis, Gorée, qui étaient représentés à l'Assemblée nationale française. Donc la tradition démocratique pratique ou parlementaire est très ancienne au Sénégal. On voit qu'il y a également une société civile extrêmement active et extrêmement variée parce que il y a en effet des courants nationalistes, néo panafricanistes, patriotes, mais il y a aussi une société civile extrêmement libérale qui lutte depuis des années en faveur de l'état de droit et de la promotion des droits de l'homme. Il y a également des institutions, on l'a vu avec le Conseil constitutionnel, qui parviennent à imposer des décisions en toute indépendance et à l'encontre des acteurs politiques. Et il y a aussi, il faut le rappeler, même si son rôle ne se joue qu'en creux, une armée extrêmement républicaine et qui a très clairement aussi réussi à imposer le fait que la démocratie triomphe dans ce qui se produit aujourd'hui. Et ça, c'est très important dans le contexte sous-régional de prétorianisme où les armées ont plutôt tendance à s'approprier les rênes de l'État. Là, on a eu un phénomène inverse où l'armée a très clairement pesé creuser pour empêcher que la démocratie ne soit interrompue. À l'échelle sous-régionale, c'est essentiel parce que la CDEAO, donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est censée être la garante des principes politiques dans la sous-région, notamment à travers un protocole adopté en 2001 qui s'appelle le protocole pour la démocratie et la bonne gouvernance, est aujourd'hui très mise à mal. On a beaucoup mis en avant le rôle des juntes militaires, dont trois d'ailleurs ont choisi de quitter l'organisation il y a quelques semaines, hein, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, mais on s'aperçoit que la structure majoritaire au sein de la CDEAO est plutôt autoritaire, y compris du côté des régimes civils. Ce qui se produit au Bénin, ce qui se produit en Côte d'Ivoire, ce qui se produit au Togo, sans parler de la Guinée, qui est encore membre de l'organisation, mais qui est aussi dirigée par une junte, est extrêmement préoccupant, parce que l'on a vu aussi des dirigeants civils confisquer la démocratie à travers des manipulations constitutionnelles. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire, ça a été le cas en Guinée. Et aujourd'hui, les États démocratiques sont minoritaires au sein de la sous-région. Donc, ce qui va se produire au Sénégal, avec ce qu'on espère être un triomphe de la démocratie, va être essentiel pour l'identité de cette sous-région, où non seulement les forces politiques à caractère autoritaire sont dominantes, mais également les forces sociales conservatrices le sont, hein, dans la plupart de ces pays. Oui. Et on parle beaucoup de l'islam, mais rappelons aussi que le conservatisme existe aussi dans la sous-région, dans les pays où il y a également des communautés chrétiennes, où un certain nombre de valeurs morales sont assez proches de celles promues par les courants conservateur de l'islam.
Précisément, Nathalie de la Palme, ravie de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes la directrice exécutive de la fondation Mo Ibrahim, une fondation qui publie un indice de gouvernance qui est devenu la référence pour l'ensemble du continent africain. Donc un indice qui est composé à partir de multiples données, plus d'une cinquantaine, je crois, de sources d'expertise. Comment est-ce que le Sénégal a évolué, si j'ose dire, dans cet indice ?
Merci beaucoup d'abord, Christine, de m'accueillir et bonjour à tous. Oui, effectivement, la Fondation Mo Ibrahim publie depuis maintenant 15 ans cet indice de gouvernance qui a été construit à l'origine avec la Kennedy School of Governance de l'Université de Harvard. Et l'objectif, c'est de faire la synthèse, de consolider les évaluations qui sont portées par cette cinquantaine de sources en les regroupant sous quatre dimensions: sécurité et règles de droit, participation et droits humains, développement humain et fondement des opportunités économiques, qui recouvre elle-même 14 sous-catégories et aujourd'hui 90 indicateurs qui sont consolidés, c'est-à-dire qu'ils proviennent de plusieurs sources différentes qui permettent d'assurer leur robustesse. Alors, le dernier indice a été publié fin 2022 et il porte sur la décennie 2012-2021. Parce que ce qui est important, c'est à la fois de regarder le résultat final, si je puis dire la performance finale, mais aussi la tendance sur la décennie écoulée. Et à vrai dire, quand on regarde les résultats en ce qui concerne le Sénégal, force est de constater que la situation actuelle ne peut pas être qualifiée de totalement inattendue. Qu'est-ce qu'on voit effectivement quand on regarde les résultats du Sénégal ? Le Sénégal en 2021, qui est la dernière année disponible à cette date, et 9e sur 54 pays, ce qui est un rang tout à fait remarquable. C'est le même classement qu'en 2012. Et il précède dans la sous-région Afrique de l'Ouest, il est précédé par le Ghana, qui est au 7e rang, et suivi par le Bénin, assez loin, au 14e rang. Qu'est-ce qu'on constate ? Que la gouvernance globale, qui fait masse de ces quatre dimensions, a progressé entre 2012 et 2021, mais que le progrès se ralentit assez sensiblement en cours de période, notamment au cours des deux dernières années.
Où les acteurs politiques, les médias ont dénoncé ce qu'il faut bien appeler une dérive autoritaire de la présidence qui se termine ces jours-ci.
Absolument. Alors, s'est passé, ce qui se passe, qu'on voit, c'est que les dimensions sécurité, règles de droit, développement humain, fondement des opportunités économiques ont progressé, en particulier en ce qui concerne le développement humain. Mais que la dimension, effectivement, participation et droits de l'homme a enregistré une détérioration qui s'est fortement accélérée en fin de période et qui est plus forte que celle qu'on constate sur l'ensemble du continent. Parce que cette évolution à la détérioration de tout ce qui concerne, je dirais, les dimensions participation et droits humains, elle est générale sur l'ensemble du continent, malheureusement. Mais au Sénégal, elle est légèrement plus forte qu'ailleurs. Et quand on regarde au niveau des sous-catégories, il y en a 14, la plus forte détérioration sur la période, c'est participation. Et quand on regarde au niveau des indicateurs, la plus forte détérioration sur la période, c'est l'indicateur liberté d'association et de réunion. Donc on a incontestablement ici, je dirais, une chronique des difficultés annoncées. Alors peut-être deux choses ici. La première, c'est que on peut en tirer un enseignement important que l'on retrouve en fait depuis l'origine de l'indice et qu'on avait déjà constaté lorsqu'on avait regardé le cas des pays dits du printemps arabe. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas finalement de trade-off qui est soutenable dans la durée entre les progrès du développement et les progrès ou l'absence de progrès ou le recul en matière de démocratie. Les progrès économiques, même réels, ne suffisent pas. Et si on reprend le cas du Sénégal, où on voit effectivement sur la décennie écoulée, sous revue, une très forte progression pour ce qui concerne la santé, les infrastructures, l'environnement des affaires, la protection sociale et même la lutte contre la corruption, hein, ce sont les plus importantes progressions sur les 14 sous-catégories, on voit en parallèle que les sous-catégories participation, redevabilité et transparence, inclusion et égalité et parité et économie rurale, qui est un point important, enregistrent les 5 plus fortes détériorations sur la période. Alors, oui. Je voudrais peut-être... C'est quand même très
préoccupant. Oui. Précisément, Nathalie, pardon, je vous interromps parce que je voudrais entendre précisément la réaction de Gilles Yabi. Gilles, votre centre de recherche, précisément étudie dans le détail et au-delà même du cas du Sénégal, la réalité de tout ce que vient nous résumer Nathalie de La Palme. Est-ce que le bilan donc des 12 ans de pouvoir de Macky Sall, avec cette détérioration sur les deux dernières années, explique en fait, au-delà des chiffres macroéconomiques, la désaffection en particulier de la jeunesse?
Oui, très certainement. Alors, beaucoup de choses à dire. Hein. Je pense que ce que l'indicateur de Mo Ibrahim sur la gouvernance... ce qu'il apporte vraiment de très intéressant, c'est justement la possibilité de capter différentes dimensions, pas simplement de la démocratie, notamment lorsqu'on la réduit à l'exercice électoral, mais vraiment la gouvernance démocratique en la connectant à ces différentes dimensions de participation, etc., mais aussi de délivrance des services publics. Hein. Ce sont aussi des éléments très, très importants. Et je crois que effectivement, on voit bien qu'il peut y avoir des progrès sur le plan économique et même sur le plan social, et que cela n'enlève pas le besoin de liberté, le besoin de respiration démocratique, l'aspiration à avoir des contre-pouvoirs et de la part de la jeunesse en particulier. Mais je crois aussi que lorsqu'on parle des progrès économiques et sociaux, notamment des taux de croissance, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que on peut avoir du 8% voire 10% de croissance pendant 2 ans, voire même pendant 5 ans. Ça ne suffit pas nécessairement à ramener une grande partie des populations dans des conditions économiques et sociales où elles percevront une véritable transformation. Il faut toujours tenir compte, je pense, de la plus longue durée. Et je crois que ce que les pays de la région payent, pas seulement le Sénégal, et d'ailleurs le Sénégal le paye moins que les autres parce qu'il a quand même su maintenir, disons, sa sécurité et sa stabilité malgré tout. On ne peut pas comparer la situation au Sénégal avec la situation dans les pays aujourd'hui du Sahel notamment. Mais ce qu'on paye vraiment collectivement dans la région, c'est les progrès qu'on n'a pas fait sur 20
30 ans. C'est pas simplement ce qu'on a fait ou pas fait pendant les dernières années. C'est vraiment ce qu'on n'a pas fait sur le terrain de l'éducation, sur le terrain de la santé, sur le terrain de la diversification de l'économie et de la création des emplois, en particulier dans des contextes de croissance démographique où donc forcément la jeunesse de la population, elle induit des besoins de création d'emplois et d'opportunités économiques absolument massifs tous les ans. Et donc ça, il n'y a pas de réponse à cela. Il n'y a pas de réponse de court terme à cela, et quelle que soit d'ailleurs la personne qui sera élue au Sénégal, il n'y aura pas de réponse à cela. Et je pense que ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est d'avoir, dans le cadre de cette campagne, peut-être au-delà surtout, de tirer les leçons de la crise institutionnelle récente, en termes, je dis, de refonte plus fondamentale des institutions. Je crois qu'on a fait beaucoup d'entretiens à Wati, on a fait des entretiens avec 20 chercheurs sénégalais dans le cadre de cette élection pour les interroger sur les réformes prioritaires pour le pays. Et ça revient sur le plan institutionnel, la question de l'hyper-présidentialisme. Donc je crois qu'au-delà de la réduction des pouvoirs du président, il faut des changements institutionnels beaucoup plus profonds. Et de l'autre côté, il faut aussi qu'on puisse connecter le besoin de liberté, de gouvernance démocratique avec le besoin d'efficacité de l'État. Et ça, je crois aussi qu'on ne le dit pas suffisamment. On a certes besoin de participation, de démocratie, de meilleure représentation, mais on a aussi besoin d'États qui soient beaucoup plus efficaces et qui soient dépolitisés dans leur fonctionnement au quotidien, parce qu'évidemment, lorsque vous avez des États qui sont des appareils administratifs qui sont très politisés, et c'est une réalité au Sénégal, et je pense même que ça s'est accru probablement sous le président Macky Sall, ça c'est un problème majeur à la fois pour la démocratie, mais aussi pour la délivrance des services de sécurité et des services publics dont les populations ont besoin.
Ngongo Semba Sylla, précisément, en quoi est-ce que le programme sur lequel le candidat du PASTEF a commencé sa campagne dès qu'il est sorti de prison, donc jeudi soir, en quoi est-ce que ce programme peut répondre aux priorités de cette nombreuse jeunesse qui tente par tous les moyens, et c'est absolument désespérant, d'émigrer pour essayer de trouver un avenir meilleur?
Avant de répondre à cette question, je voulais dire que c'est un lieu commun de penser que le Sénégal est une exception démocratique. Quand on dit que les Sénégalais votaient depuis le 19e siècle, ce n'est pas tous les Sénégalais. C'est en fait ce qui représentait les intérêts esclavagistes et coloniaux, et parfois ce qu'on a appelé les évolués. Et quand on regarde aussi l'histoire du Sénégal, par exemple la période, en tout cas, de multipartisme à partir de la fin des années 70 jusqu'au début des années 2000, on voit que les taux de participation aux élections législatives et présidentielles ont diminué tendanciellement. C'est passé de près de 64% à 39%.
Et dans la Mais précisément, pour cette élection-ci, est-ce qu'on peut espérer un taux de participation élevé? Et en particulier, est-ce que les jeunes sont inscrits sur les listes électorales?
C'est un problème parce que
les
manifestants
ne
sont pas nécessairement
sûrs. Là, on vous entend très mal. Ah, allez-y.
Les 18-20 ans, par exemple, représentent 1 million. Leur population, c'est 1 million. Et donc, sur le fichier électoral, en janvier 2022, ils étaient moins de 87 000. Donc, quand vous prenez les 18-30 ans, c'est près de 2,2 millions qui ne sont pas sur le fichier électoral. Il y a une période de révision électorale en 2023, mais elle a été très courte, elle n'a duré qu'un seul mois. Et donc la période aurait pu y rallonger, mais c'est que généralement dans ces systèmes électoraux, tout est fait pour que les jeunes ne participent pas aux élections. Et quand les jeunes sont sur les listes électorales, ils n'ont pas forcément leur carte d'électeur. Et donc c'est tout ça la réalité des systèmes électoraux, et donc il ne faut pas penser que le Sénégal est un cas isolé. Dans notre livre « La démocratie en France-Afrique » avec la journaliste française Fanny Pujol, ce que nous montrons, c'est qu'il y a une crise de la France-Afrique. Elle prend des formes civiles despotiques au Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, etc. Et dans d'autres, c'est des coups d'État militaires. Parce qu'aussi là, il faut être très spécifique dans l'analyse. Les coups d'État militaires...
Oui, mais pourquoi en rester à la France-Afrique? On a vu effectivement lors des manifestations au Sénégal en 2021-2023 une colère anti-française visant tous les intérêts français. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop simple, sans arrêt, de mettre en cause la France-Afrique?
Bon, c'est les données qui montrent cela. Depuis 2020, il y a eu 9 coups d'État sur le continent africain. 8 sont intervenus dans les territoires qui ont été anciennement colonisés. Et donc, quand on regarde la situation, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que vous avez? Vous avez récemment la crise au Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire où il n'y a presque plus d'opposition institutionnalisée, donc la dernière élection présidentielle a été gagnée à 95%. Au Bénin, c'est la même chose, il n'y a presque plus d'opposition institutionnalisée. Dans les autres pays, vous avez des coups d'État militaires. En Afrique centrale, francophone, les mêmes dirigeants sont là depuis 30 ans, 40 ans. Et donc ça, c'est une spécificité de l'Afrique francophone. Et il faudrait en parler. Et ça, c'est lié à l'héritage de la France-Afrique. Et donc, d'une certaine manière, les jeunes disent que nous voulons changer les choses. Mais les systèmes électoraux sont tellement verrouillés que, dans certains contextes, il y a que les jeunes officiers qui ont pu prendre le pouvoir pour essayer de changer les choses. C'est ce qui se passe, par exemple.
Et alors, j'en reviens à ma question, Ndongo Semba. Est-ce que le programme du PASTEF peut répondre, encore une fois, aux aspirations de toute cette partie des Sénégalais qui s'estiment pas représentés ou mal représentés?
Les jeunes ont énormément d'espoir dans le projet qui leur a été pendu par Ousmane Sonko. Mais ce qu'il y a, c'est que la transformation structurelle de l'économie demande du temps. Il faut 10 ans, il faut une génération, et c'est pas en un mandat que ça peut être résolu. Il peut y avoir quelques avancées, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a présentement pas les bases macroéconomiques pour amorcer cette transformation structurelle. Et l'un des piliers pourrait être, par exemple, cette sortie du franc CFA pour avoir justement une indépendance financière qui permettra au pays, sous certaines conditions, en tout cas, d'avoir une politique qui permette de créer des emplois, qui permette de retrouver un peu de compétitivité, qui permette aux entreprises locales de croître, qui permette de produire davantage pour limiter certaines importations. C'est le seul candidat qui a, en tout cas, un programme qui est assez cohérent sur le plan économique. Parce que pour tous les autres, les contraintes financières sont là. Quand vous êtes un pays qui a une balance commerciale, balance courante et déficitaire sur 60 ans, et que ça veut dire que vous perdez des devises et que vous fixez votre monnaie à une autre monnaie qui est forte, ça veut dire que vous avez besoin en permanence de devises. Ça veut dire que la croissance économique sénégalaise a été basée sur l'exportation de capitaux étrangers. C'est-à-dire que vous vous endettez en monnaie étrangère et vous devez attirer des investisseurs directs étrangers. Et donc, du coup, la croissance que vous avez ne reflète pas d'une certaine manière le développement de vos capacités politiques. Donc, vous ne créez pas d'emploi. Donc, c'est ce modèle qu'on a depuis 60 ans et les jeunes n'en veulent plus. Et donc, il y a des partis qui disent, nous pouvons changer cela. Mais on verra.
On verra. Niagale Bagayoko, une fois, par rapport à la sous-région, les coups d'État militaires que l'on a vus dans les pays voisins et aussi la contagion djihadiste, notamment à la frontière entre le Mali et le Sénégal, quels sont les risques par rapport à cette poussée qui semble inexorable?
Alors, pour ce qui est de la question des coups d'État, comme je l'ai indiqué précédemment, il me semble que, précisément, on a une armée sénégalaise dont la tradition est extrêmement républicaine et qui a toujours, c'est important de le rappeler, depuis 1962, refusé d'arbitrer les conflits au sein de la classe politique alors qu'elle y a été invitée dès 1962. Mais pour ce qui est de la lutte contre le djihadisme,
à la frontière, oui.
Oui. On voit du côté de la région de Kaï, au Mali, une progression notamment des groupes, des Katibas affiliés au GSIM, donc au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affiliés à Al-Qaïda, qui progressent indéniablement. Mais le Sénégal a une politique en matière de prévention de ces dynamiques qui est apparue assez efficace, y compris à travers des dispositifs qu'on appelle les GARCI, soutenus par l'Union européenne, qui ont échoué plutôt ailleurs, mais qui sont plutôt une réussite côté sénégalais. Ce qui progresse cependant au Sénégal, c'est plutôt une vision conservatrice de l'islam. Mais le Sénégal fait plutôt partie des États qui ont réussi d'un point de vue sécuritaire à tenir cette menace. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'on a aussi une armée sénégalaise qui a été extrêmement engagée d'un point de vue opérationnel pendant des décennies, notamment dans le cadre de missions de paix des Nations Unies, mais qui est en tout cas extrêmement opérationnelle et aguerrie, et qui n'avait sans doute pas besoin de tous les programmes de formation qui ont été mis en place ailleurs pour renforcer des capacités qui n'existaient pas de manière efficace, notamment dans les États sahéliens.
Nathalie de la Palme, on revient aux travaux de votre fondation, Mo Ibrahim. En un mot, qui est Mo Ibrahim d'ailleurs ? Expliquez-nous ça rapidement.
Très rapidement, il est d'origine soudanaise. C'est à l'origine un homme, un entrepreneur qui a fait fortune dans les télécoms et qui a créé les premières compagnies, en place les premières compagnies de téléphonie mobile sur le continent africain.
Et qui a donc créé cette fondation qui donc mesure, encore une fois, en fonction des critères que vous nous avez expliqués précédemment, l'évolution de tous les pays du continent africain. Pour rebondir ce que nous expliquaient à la fois Gilles Yabi et Ndongo Sembasila, la définition même de la démocratie, elle évolue en fait.
Oui, c'est un vrai sujet, mais si vous me permettez peut-être.
Oui, mais.
Parce qu'on publie aussi des études, on vient d'en publier une sur l'année électorale en Afrique. Il y a 17 pays qui vont passer sous élection. Les Comores, c'est déjà fait. En 2024, et je voudrais rebondir sur un sujet qui est revenu à plusieurs reprises, qui est la jeunesse. Je crois que ce qui caractérise aujourd'hui, enfin, ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui dans l'analyse des élections sur le continent, c'est l'importance de la jeunesse et les attentes de la jeunesse. Plus de 60% aujourd'hui de la population du continent a moins de 25 ans. Ils sont dépourvus de perspectives économiques et ils ont le sentiment d'une désappropriation politique. Donc c'est un vrai sujet sur lequel qui explique les sentiments actuels. Sur ces 17 pays sous élection, l'écart entre l'âge du dirigeant et l'âge médian de sa population est de 41 ans. C'est considérable, c'est pas simplement, c'est vrai au Sénégal, et si je puis me permettre, c'est pas simplement un sujet d'Afrique francophone. On retrouve la Namibie, le Mozambique, l'Afrique du Sud, toute une série de pays qui sont dans le même cas. Ce qui est important de voir aussi, c'est que les écarts les plus faibles, et c'est intéressant, se trouvent au Tchad, au Burkina Faso, au Mali. Je parle des pays qui vont en principe connaître des élections en 2024. Mais c'est aussi le cas du Niger, de la Guinée équatoriale et du Gabon. Donc on voit bien qu'aussi derrière cette vague de coups d'État qui a caractérisé le continent ces dernières années, il y a cette espèce de volonté de la jeunesse quand même de prendre le pouvoir et d'exprimer ses attentes. J'ajoute à ça que l'arrivée du pétrole et du gaz, notamment au Sénégal, est quelque chose qui exacerbe les attentes et le fait qu'on souhaite s'approprier davantage les ressources du pays. Alors, pour en revenir sur la question de démocratie, c'est un vrai sujet. Parce que nous, on voit bien, on prend les indicateurs dont on dispose, bien sûr, qui sont disponibles. Et on en arrive à la conclusion qu'il faut aller au-delà d'une définition de la démocratie qui se résumerait à la tenue d'élections exécutives qualifiées de libres et transparentes par des observateurs généralement étrangers, extérieurs au pays, à intervalles réguliers. C'est beaucoup plus que ça. Il faut absolument qu'on revienne sur cette notion, qu'on réfléchisse sur ce qu'elle veut dire et comment elle peut s'exprimer dans le monde moderne, notamment vis-à-vis de la jeunesse. Je reviens sur les résultats de cette étude sur les 17 pays, si je puis dire, sous élection. Quand on regarde la participation au vote, et on en a parlé récemment dans notre conversation, en principe, sur ces 17 pays, plus de la moitié de la population est potentiellement appelée à voter. Simplement, le problème en Afrique, c'est que 500 millions de personnes sont dépourvues d'identité civile. 500 millions de personnes, je rappelle que c'est deux fois la population du Brésil et pratiquement presque une fois virgule cinq la population des États-Unis. Si je prends le cas du Sénégal seulement, selon les dernières études qui ont été faites par Afrobaromètre, à la dernière élection, 71% des personnes interrogées ont indiqué ne pas avoir pu trouver un bureau de vote. Donc il y a aussi une question d'infrastructure, d'infrastructure électorale. Il faut, quand on travaille sur les questions de la démocratie et sur, je dirais, l'évaluation de la situation de la démocratie, ce sont des sujets sur lesquels il faut aussi travailler. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais dire. Merci.
Précisément, Gilles Yabi, le rôle de votre centre de recherche, Wati, dont je recommande la plateforme et les analyses qui, encore une fois, s'intéressent au Sénégal, bien sûr, mais au-delà, à plusieurs pays et plusieurs sociétés du continent. Comment interprétez-vous, au-delà du simple désespoir, l'émigration massive de jeunes Sénégalais qui partent en canot pneumatique pour traverser l'Atlantique, qui essayent de joindre le Nicaragua dans l'espoir d'atteindre les États-Unis, et évidemment qui essayent aussi de venir en Europe et en France, où il y a une diaspora sénégalaise importante?
Oui, mais je pense que Madame Delapin vient de le dire. Il y a beaucoup de désillusions de la part de la jeunesse par rapport à des choses très concrètes. Et d'ailleurs, cela me permet peut-être un peu de revenir sur la première discussion, l'évocation du rôle des confréries, les questions du conservatisme, etc., qui sont bien sûr importantes. Mais je crois qu'une grande partie de la population, et notamment des jeunes, ce qui les intéresse, ce sont des choses assez concrètes qui finalement ne sont pas très différentes des aspirations des jeunes dans les autres parties du monde. C'est avoir un emploi, avoir un véritable emploi, pas simplement un emploi informel instable. C'est avoir des perspectives de fonder une famille, de stabilité. C'est aussi bénéficier d'une forme de liberté par rapport aux pressions familiales, parce que dans un environnement de pauvreté, ben, vous avez aussi énormément de pression. Et ça fait le lien d'ailleurs avec votre question sur la migration. Je crois qu'on oublie souvent que beaucoup de jeunes partent aussi. Alors, pour aller chercher les revenus, ensuite pour envoyer à leur famille. Et parfois, ils y vont d'ailleurs sous la pression de la famille, ou en tout cas avec les vifs encouragements de la famille, qui va se cotiser à aller chercher des ressources pour pouvoir financer le projet de migration, qui est un projet qui est toujours coûteux, ce qu'on oublie également. Vous avez mentionné le Nicaragua, la voie du Nicaragua vers les États-Unis. C'est très, très coûteux. C'est plus d'un million de francs CFA pour financer un tel projet, en réalité, vous avez vraiment des centaines, voire des milliers de personnes au cours des 2-3 dernières années qui sont parties, pas seulement du Sénégal, mais du Sénégal et également aux États-Unis, avec cet espoir donc de passer par la voie du Nicaragua. Et ça s'ajoute à tous ceux qui passent depuis des années et une partie qui disparaissent dans la mer pour rejoindre l'Espagne, les îles Canaries, etc. Et donc, oui, la question de la migration est, je pense, juste un révélateur justement de ces illusions. Mais il faut faire attention, parce que la migration, c'est aussi un phénomène très ancien mondial. Donc je crois que dans l'analyse de la migration, il faut bien voir le côté, des illusions et le besoin de créer les conditions pour que les jeunes aient de l'espoir. Mais en même temps, il faut aussi toujours rappeler que partout, il y a de la migration, de tout temps, il y a de la migration. Et donc, il y a aussi une sorte de volonté pour certains de pouvoir aller voir le monde. Et lorsque vous avez, par ailleurs, une quasi-impossibilité d'avoir des visas, bah, effectivement, vous avez cette migration qui, de fait, devient une migration irrégulière. Donc, il y a toute une analyse, un peu, je pense, complexe à avoir sur les migrations, mais c'est un fait que ce flux massif, avec les risques qui sont liés à ces projets de migration, ça illustre quand même une forte perte de confiance dans l'avenir du pays, et ça, c'est problématique. J'étais récemment aux États-Unis, ça se voit quasiment à New York, hein, ce flux important de Sénégalais, de Guinéens, un ami guinéen qui estimait à 8000 Guinéens qui sont arrivés au cours des deux dernières années, et ça, c'est quasiment, c'est pas aux États-Unis, c'est vraiment dans la ville de New York, avec des difficultés aujourd'hui très importantes, d'ailleurs pour la mairie et l'État d'absorber ces nouveaux migrants. Donc oui, c'est un vrai sujet, c'est un sujet très important, mais les réponses, là encore, ne sont pas des réponses à court terme. Il n'y a pas de réponse à court terme aux besoins, notamment d'emploi et d'opportunités économiques. Il faut régénérer l'espoir que le changement politique puisse induire, en tout cas, disons, une accélération des transformations qui peuvent ensuite donner le meilleur horizon pour les jeunes.
Et précisément, Gilles, quelles seraient les priorités dans cette très courte campagne électorale qui pourrait répondre aux aspirations des Sénégalais dans leur ensemble, selon vous? Quelles devraient être ces priorités avancées par les différents candidats? Je rappelle qu'ils sont 19. Il y a trois candidats, si j'ai bien compris, du PASTEF. Il y a une femme entrepreneur. Quelles devraient être ces priorités?
Bon, je crois, pour être tout à fait réaliste, la semaine de campagne qui reste, ça va pas vraiment nécessairement être une semaine de grands débats sur les priorités, sur les programmes, mais je pense qu'il faut aussi reconnaître que cette fois, et à chaque élection, on a quand même l'impression que tous les candidats se croient, en tout cas, obligés de proposer des documents, des programmes. Après, on peut exprimer des réserves sur la qualité de ces programmes et surtout leur niveau de détail lorsque vous avez des propositions, mais que vous ne savez pas comment vous allez les financer, par exemple. Mais en tout cas, il y a quand même un progrès dans le fait que les candidats se disent il nous faut proposer des projets et c'est important. Je souligne aussi que des organisations de la société civile, nous aussi à Wati, on met en ligne d'ailleurs les programmes et les biographies des candidats, mais il y a d'autres qui le font, par exemple en utilisant l'intelligence artificielle pour permettre aux gens de pouvoir comparer, disons, un peu rapidement ce que proposent les différents candidats. Je trouve ça très intéressant. Mais fondamentalement, moi je pense, et ça c'est vraiment le message que porte Wati depuis des années, pas seulement sur le Sénégal, mais sur l'ensemble de la région, c'est un, le besoin de changer les pratiques politiques. Et je crois que là, ce n'est pas seulement les anciennes colonies françaises. Je pense qu'il y a beaucoup de soucis liés à cet héritage colonial particulier. Mais je souligne quand même qu'il y a des pays comme le Soudan, pays de Mo Ibrahim et beaucoup d'autres non francophones qui ont aussi de l'instabilité, des pratiques politiques marquées par la corruption et des problèmes importants sur le plan économique. Donc je crois qu'il faut élargir aujourd'hui la réflexion au-delà de la question de l'héritage colonial français et de cet art pour aller vite, pour avoir une réflexion beaucoup plus générale sur les besoins de renforcer, de changer le contenu qu'on met dans la démocratie. Je vais terminer sur ça parce que Madame de la Palme a mentionné aussi. Je pense qu'on doit travailler vraiment, d'une part, sur l'amélioration de la qualité des processus électoraux. Mais lorsqu'on le dit ça, on voit tout de suite qu'il faut travailler sur l'éducation civique, qu'il faut travailler sur les réseaux sociaux et leur régulation. Il faut travailler sur le financement des activités politiques. Donc je crois qu'on doit avoir toute une réflexion et des propositions précises pour améliorer la qualité des processus électoraux et de la représentation. Mais je crois que ça ne suffira pas. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus d'innovation et on doit aussi penser à travailler sur les institutions, sur les contre-pouvoirs de manière assez précise et peut-être même innover dans le sens d'avoir une institution qui soit celle qui va justement assurer la participation des citoyens à la gouvernance démocratique. On ne peut pas simplement aujourd'hui croire que les assemblées nationales suffisent à jouer ce rôle-là. Et ça, c'est vrai en Afrique, comme c'est vrai partout. On voit bien qu'il y a une sorte d'essoufflement de la démocratie représentative et qu'on a besoin d'aller un peu plus loin, je pense, dans l'ambition de créer du lien entre les citoyens et les gouvernants, pas seulement au moment de l'élection, mais aussi de manière permanente. Et ça, c'est vraiment les sujets sur lesquels nous travaillons aussi à Wati depuis longtemps, en essayant de mettre simplement ces questions dans le débat public.
Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie tous les cinq. À commencer par vous, Gilles Yabi. Je rappelle donc votre think tank Wati, ça s'écrit W-A-T-H-I, avec une plateforme très riche. Et je recommande aussi le podcast en partenariat, votre podcast en partenariat avec RFI, qui s'intitule « Ça fait débat avec Wati ». Je remercie bien sûr Nathalie de la Palme, directrice exécutive de la Fondation Mo Ibrahim, là aussi une plateforme avec des notes fort intéressantes, et bien sûr ce fameux indice qui mesure l'évolution des différents pays à l'échelle du continent africain. Niagale Bagayoko, vous avez publié dernièrement une note sur présence et influence des puissances moyen-orientales en Afrique subsaharienne pour la Fondation méditerranéenne d'études stratégique. Ndongo Samba Sila, je signale votre livre de la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral aux éditions La Découverte cette année. Et Jean-François Bayard, une note de recherche sur religion et révolution conservatrice en Afrique pour la revue publiée par le Fonds d'analyse des sociétés politiques. À la réalisation, ce matin, Luc-Jean Reynaud, Dali Ya à la technique, Mercia Nezic et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission que vous pouvez retrouver et recommander, bien sûr, en podcast sur la plateforme France Culture. Et dans un instant, voici Nora Hammadi, Sous les radars. Très bon week-end et à samedi prochain.